Le 15 avril 1874, au 35 boulevard des Capucines, l'exposition qui s'ouvre va entrer dans l'histoire de l'art.
La visite précédente était une galerie de portraits des principaux peintres impressionnistes. Presque tous ont exposé leurs toiles dans cette première exposition boulevard des Capucines à Paris. Fini le jury académique, vive l'indépendance, le contact direct avec les amateurs d'art. Pourtant, rien ne leur est acquis. Bonjour et bienvenue dans cette 24e visite de la saison 7 du Panthéon décousu sur Radio Alpa 107.3 au Mans et radioalpa.com partout ailleurs. Cette semaine, les 150 ans de l'expo qui changea le monde de l'art. Fin des années 1860, Monet a fait évoluer sa peinture. Comme la fois précédente, retrouverons le doc d'Arte.
Et d'abord Claude Monet, qui de son côté est enfin apaisé et qui débute à Argenteuil un des chapitres les plus éblouissants de son œuvre. Grâce à son marchand Paul Durand-Ruel, qui lui achète ses tableaux, Monet peut se concentrer sur son art, et il affirme de plus en plus sa vision. Presque plus de noir dans ses tableaux. Pour signifier l'ombre, Monet préfère les couleurs pures, puis en rajoutant progressivement du blanc, il éclaircit ses teintes pour représenter la lumière du soleil. Tout devient couleur. Les touches se font fleurs et éclatent au soleil. De près, on voit une succession de petites taches qui semblent informes. Et dès que l'on prend du recul, ces taches font paysage, lumière. Et les coquelicots deviennent alors une poésie de la nature. Monet se sent plus libre que jamais.
Chacun voit sa créativité renforcée par une certaine stabilité matérielle et un début de reconnaissance bienvenue. Mais en 1870 éclate la guerre franco-prussienne. Frédéric Bazille, aimé de tous ses amis et confrères, s'engage. Il y meurt, puis c'est la Commune. Ils sont plusieurs alors à s'installer à Londres. En 2018, le Petit Palais organisait une exposition à ce sujet, les impressionnistes à Londres, extrait d'une pastille de Paris Musée avec les commissaires de l'expo, Christophe Leribaud et Isabelle Collet.
La guerre de 1870, que l'on a un peu oubliée peut-être parce qu'elle était évidemment une guerre perdue, puis le siège de Paris, la Commune, ces violences, la répression de la Commune ont entraîné toute une série d'artistes, peintres, sculpteurs, mais aussi des musiciens ou des écrivains à fuir la ville. Donc on assiste à un véritable exode d'artistes vers Londres, où ils doivent reprendre pied, trouver des nouveaux moyens de subsistance, bien sûr, et déjà réussir à exposer.
Pour les artistes qui arrivent à Londres, et principalement les artistes de paysage, la ville leur offre les brumes, un climat très particulier qu'ils vont devoir apprivoiser. Là, c'est différent de la France, puisque la ville est très industrielle, très brumeuse, le temps change tout le temps. Et c'est une vraie difficulté pour les peintres de plein air que vont être les impressionnistes.
Au-delà de tous les problèmes matériels que ces artistes doivent gérer avec leur famille à Londres, il faut aussi qu'ils puissent exposer, trouver de nouveaux collectionneurs et mécènes. Certains ont pris avec eux des œuvres plus anciennes qu'ils peuvent montrer, d'autres pas, et il leur faut une galerie. La Royal Academy est relativement fermée à ces nouveaux arrivants qui arrivent avec un style très différent de la peinture britannique de l'époque. Et c'est un marchand, Paul Durand-Ruel, qui avait amené avec lui son stock d'ailleurs, qui va ouvrir une succursale à Londres et essayer de montrer.
J'ajoute que Londres est plutôt un bon choix, surtout pour Monet, dont l'une des principales influences est l'immense peintre anglais Turner et ses brumes hypnotiques.
C'est aussi une histoire d'amitié, de rencontre entre les artistes français, les artistes anglais, les collectionneurs, ceux qui vont accueillir ces exilés avec un esprit ouvert, prêts à se confronter à cette nouveauté que les Français apportent. Les rencontres ont lieu dans les cafés, dans les pubs, aussi à la Grosvenor's Gallery, qui est le nouveau lieu d'exposition à la mode, plus ouvert à la nouveauté que naît la Royal Academy.
Ils seront également plusieurs à revenir à Londres ensuite, comme Monet en 1904 avec les honneurs.
Bien sûr, le retour triomphal de Claude Monet. Il exécute toute une série de vues, notamment du Parlement de Westminster, qui aboutiront à une exposition triomphale en 1904 chez Durand-Ruel.
Pour leur retour 30 ans auparavant, en 1873, la toute jeune République est encore fragile. Les combats ont cessé, mais les débats politiques font rage. Les ultra-conservateurs sont toujours au pouvoir, MacMahon succède à Thiers, les royalistes sont bien présents et les républicains alors plutôt à gauche, tente d'asseoir une opposition forte et constructive. La commune est définitivement écrasée et la meringue du Sacré-Cœur, jugée d'utilité publique, va bientôt s'élever en lieu et place du souvenir ardent des communards.
En mai 1873, Monet profite du vent de révolte qu'agite l'Avenir National, un quotidien férocement républicain qui appelle tous les travailleurs comme tous les artistes à s'organiser en corporation.
Avec un groupe de peintres réunis chez moi, nous sommes heureux de vous voir défendre des idées qui sont les nôtres. Et nous espérons que votre journal voudra bien nous prêter son appui quand la société que nous sommes en train de former sera entièrement fondée.
L'Avenir National s'empresse de publier la lettre de Claude Monet.
Nous avons été très heureux de recevoir la lettre signée d'un artiste de très grand talent. Nous faisons donc des vœux pour la réussite du projet dont M. Claude Monet nous parle. Nous savons déjà qu'il y aura dans son association plusieurs artistes de grand mérite.
Des discussions s'engagent autour de Claude Monet et de Camille Pissarro pour aboutir à la constitution d'une société anonyme d'artistes peintres et sculpteurs dont les statuts sont déposés en décembre 1873. Aux côtés des administrateurs Monet et Pissarro, on retrouve dans le conseil de surveillance Renoir, accompagné du peintre Béliard et du sculpteur Autain, ancien de la Commune de Paris, qui accepte de s'engager dans cette nouvelle coopérative d'artistes. Et le premier et principal objectif de la nouvelle association est bien sûr l'organisation d'expositions libres.
Autant vous dire que la liberté d'association est encore loin d'être acquise, alors toute velléité est très encadrée. Les amis peintres cherchent alors un lieu où exposer qui soit central, facile d'accès et avec foule potentielle si possible.
La foule est nombreuse à venir se divertir sur les boulevards le soir.
Ce lieu, Monet et ses amis l'ont trouvé boulevard des Capucines. Un quartier particulièrement animé où se mêlent les mondes de la culture, de la politique et des affaires. Un fourmillement de fiacres et d'omnibus à cheval dont l'énergie a frappé Claude Monet qui peint cette vue du boulevard des Capucines pour témoigner de la frénésie de ces grands boulevards imaginés quelques années plus tôt par le baron Haussmann. Ce tableau, Monet l'a peint depuis les anciens ateliers du grand photographe Nadar. C'est là que se déroulera l'exposition de la Société anonyme des artistes peintres qui a loué pour un mois au photographe ces deux étages du 35 boulevard des Capucines.
L'immeuble Nadar existe toujours. L'ossature en poutrelles métalliques rappelle Gustave Eiffel. De grandes baies vitrées lui offrent d'office une belle lumière naturelle, surtout au dernier étage. Les murs sont tendus d'un tissu rouge puis...
Ce qui plaît au peintre, c'est la configuration des lieux, qui ressemble à un appartement bourgeois, chaleureux et intimiste, loin du gigantisme impersonnel des galeries du Palais de l'Industrie. Un écrin parfait pour accueillir leurs œuvres sur deux niveaux. Mieux, grâce à l'éclairage au gaz installé par Nadar, il sera même possible d'ouvrir l'exposition en soirée, au moment où les badauds traînent sur le boulevard. Et Claude Monet, fasciné par les lumières des Capucines, de peindre une seconde vue à la tombée du jour, quand la foule se presse sur les trottoirs pour rejoindre les théâtres. C'est donc un emplacement parfait.
Chacun est motivé pour y inviter à exposer ami ou maître.
Ce que va faire Edgar Degas avec passion et acharnement.
Il faut que vous exposiez au boulevard. Je m'agite et travaille avec force l'affaire. Les journaux commencent à colporter autre chose qu'une annonce.
Il y aura Eugène Boudin, bien sûr, qui le premier emmena Monet en pleine nature. Pissarro souhaitant que son ami proche, Cézanne, soit représenté, il en reste un, et pas des moindres, à convaincre.
Manet, c'est autour de vous que notre groupe s'est formé. Pourquoi ne pas exposer ensemble ?
Vous pensez vraiment que je vais exposer mes toiles dans la même pièce que ce rustre de Cézanne ?
Tu parles d'une troupe.
Silence l'aiguillon sur les branches immobiles. Les arbres font des rayons et des ombres subtiles. Silence dans la maison, silence sur la colline. Ces parfums qu'on devine, c'est l'odeur de saison. Mais voilà l'homme sous son chapeau de paille, des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille. Cézanne peint. laisse s'accomplir la magie de ses mains. Cézanne peint. Et il éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien. Si le bonheur existe, c'est une épreuve d'artiste. Cézanne le sait bien.
Vibre la lumière, chanter les couleurs. Il y met sa vie, le bruit de son cœur. Et comme un bateau porté par sa voile, doucement le pinceau glisse sur la toile. Et voilà l'homme qui croise avec ses yeux le temps d'un éclair, le regard des dieux. Cézanne peint. Laisse s'accomplir le prodige de ses mains. Cézanne peint. Il éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien.
Cézanne peint, signé Michel Berger, naturellement par France Gall, mais auparavant. Eh bien, en 1998, Hugo Frey a sorti un CD de reprise que l'on n'attendait pas, ma foi, belle surprise. Ironie du sort, Manet, auteur de la magnifique Olympia, que tous encensent, n'exposera pas Boulevard des Capucines alors que, presque en face, se trouve la mythique salle de l'Olympia. Il en reste une à convaincre d'exposer, c'est Berthe Morisot. Bah, son oui est acquis, mais voilà, la demoiselle a beau avoir 33 ans, c'est à sa mère de décider. Et oui, que voulez-vous, autre temps, autre principe.
Chère madame, nous avons créé la Société Anonyme et Coopérative des Artistes, Peintres, Sculpteurs et Graveurs. Et nous nous apprêtons à organiser une exposition indépendante du salon. Nous sommes 20 à 25 et on attend encore quelques adhésions. En somme, on peut dire que l'affaire est faite, puisque nous avons le local et les fonds.
Il se donne du mal pour être convaincant. Si je propose à votre fille d'être des nôtres...
Si je propose à votre fille d'être des nôtres...
C'est d'abord parce que
j'y serai. Et que cette exposition aura une portée suffisamment réaliste pour que tout peintre qui se dit réaliste ne puisse s'en exempter.
Et puis, nous trouvons que le nom et le talent de Mademoiselle Berthe Morisot
Font trop notre affaire.
Pour avoir à nous en passer. De cas. J'imagine qu'il est inutile que je te dise ce que je pense de cette entreprise, que Manet lui-même trouve bien trop risqué.
Manet décide pour lui, et moi pour moi.
Depuis le décès de son père, Berthe Morisot ne peut se permettre de fragiliser sa situation financière. Pourtant, avec ce projet d'exposition, elle a le sentiment qu'on la considère enfin comme une artiste à part entière.
Gabriel Fauré, Romance sans parole, opus 17, numéro 3. Le compositeur et organiste, mort il y a pile 100 ans, en 1924, est de la même génération. Avant qu'il ne s'installe brièvement à Rennes, en 1866, il composa cette pièce à 18 ans, donc vers 1863.
il n'existe aucune image ni aucune description précise qui permettent de savoir comment étaient réellement disposées les œuvres sur les deux niveaux de l'ancien atelier Nadar. Mais à partir du catalogue de l'exposition, d'articles parus dans la presse et d'échanges de lettres, une équipe de spécialistes a rassemblé les indices qui leur permettent de proposer des hypothèses de reconstitution. Ainsi, sous l'immense verrière du second niveau, les visiteurs qui ont découvert l'exposition ont sans doute déambulé parmi les sculptures de l'ancien communard Auguste Autin, qui côtoyait l'étoile de son ami Édouard Béliard, comme celle de nombreux artistes aujourd'hui oubliés. Parmi la trentaine de peintres qui ont osé exposer au boulevard, on retrouve aussi le fidèle Eugène Boudin, qui a apporté une dizaine de pastels et d'aquarelles, dont les études de ciel qui avaient tant marqué le jeune Claude Monet. Et dans la succession des salons du premier niveau, le visiteur a pu découvrir des tableaux considérés aujourd'hui comme des chefs-d'œuvre de la peinture. À l'image de ces jeunes femmes modernes de Renoir, qui illuminaient la première salle de l'exposition, avec la Parisienne, la petite danseuse, ou l'élégante spectatrice de l'avant-scène. Plusieurs journalistes sensibles au travail de ces pionniers de la peinture souligneront dans la presse l'audace de l'opération, les salons tendus de laine rouge si favorables à la peinture, et ces tableaux dignes de fixer l'attention du public.
Alors, autant dire que la presse écrite, principal vecteur des informations et des idées à l'époque, est toujours très active sur ce genre d'événement. La presse n'était pas unanime. Certes, il y eut quelques retours gentiment positifs, mais...
Nous n'avons trouvé dans l'ancienne salle Nadar qu'un amas de non-sens.
Un gâchis insensé, grotesque, sans précédent, heureusement, dans l'histoire de l'art.
Un petit nombre d'exposants a pris à partie les maîtres et les a couverts d'injures.
C'est tout simplement la négation des règles les plus élémentaires du dessin et de la peinture.
Ces critiques acerbes vont notamment cibler certains tableaux. Et c'est en cherchant à donner un nom à ces peintres dont il a décidé de se moquer qu'un journaliste détourne le titre du tableau de Claude Monet. Impression, soleil levant.
Impression, j'en étais sûr. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans.
Et le journaliste d'exprimer tout son mépris pour ceux qu'il appelle désormais les impressionnistes.
Le terme trouvé donc par un journaliste, il me semble, du Figaro, peu tendre avec leur nouveauté, fut repris, dirais-je de bon cœur, par les principaux intéressés.
Étonnante histoire que celle de cette première exposition de 1874, qui n'a pas eu le succès escompté, mais à partir de laquelle, pourtant, plus rien ne sera comme avant. Non seulement un courant pictural majeur vient de naître, ne demandant qu'à s'épanouir, mais un groupe de peintres est parvenu à conquérir son indépendance et à défendre une liberté d'esprit à laquelle il n'est plus question de renoncer. Ceux que l'on moque comme les impressionnistes vont même reprendre à leur compte ce nom lors d'une des nombreuses expositions qu'ils organiseront jusqu'en 1886. Mais il leur faudra attendre encore de nombreuses années pour que leurs œuvres obtiennent enfin du succès. D'abord à New York dans les années 1890, puis à Londres au tournant du XXe siècle. Et enfin à Paris.
Pour terminer cette courte visite, je voulais évoquer deux artistes autrement. Le premier grâce au cinéma.
La maison des Renoir, c'est bien ici ?
Comment tu t'appelles ?
André.
Je crois que nous allons travailler tous les deux. Un tableau doit être une chose aimable et heureuse.
C'est qui ce bébé ? C'est mon frère Jean.
La peinture de Renoir, ça me donne envie de la manger.
Vous avez envie de me manger ?
Il faut se laisser aller dans la vie.
Faut pas avoir peur. Moi, je veux tout. J'ai pas envie d'attendre, j'ai pas la patience.
Toi aussi. Tu ne peux pas te passer d'elle. La douleur passe, la beauté reste.
En 2013 sort le beau film de Gilles Bourdos, Renoir, incarné par le magistral Michel Bouquet et la jeune Christa Terray dans le rôle du dernier modèle. La dernière femme du peintre était aussi modèle et lui a donné deux fils, dont Jean, le célèbre cinéaste. Alors quand celui-ci tient absolument à repartir pour le front en 1915...
Ta mère. Je lui dois tout. J'avais l'émeute dans le sang. Elle m'a calmé les nerfs. Quand je l'ai connue, j'avais 20 ans de plus qu'elle. J'étais persuadé que ma vie était finie. Mais non. Elle commençait. Jamais j'aurais pensé accompagner un jour son cercueil.
À Montmartre ou en Amérique, il y aura toujours des amoureux. Mais un moulin aussi pratique, il n'y en a sûrement pas deux. Il moue des chansonnettes et tourne de jolis refrains. Notre moulin de la galette, chaque matin, c'est un vieux moulin qui tourne à Montmartre. C'est un moulin vieux comme un bric-à-brac. C'est un vieux moulin, un vieux diable à quatre, qui berce la ville de son gai tic-tac. Le dieu Cupidon souffle sur ses ailes, et chaque printemps, quelques hirondelles volent tout autour dans un bruit d'amour. C'est un vieux moulin qui tourne sans fin. À Montmartre, on est loin d'être bête, on se méfie de manquer de pain. Et le moulin de la galette est tout prêt à moudre son grain. Mais c'est l'esprit seul qui pétille et tourne la roue du moulin, qui reçoit les bonnets des filles chaque matin. C'est un vieux moulin qui tourne à Montmartre. C'est un moulin vieux comme un bric-à-brac. C'est un vieux moulin, un vieux diable à quatre, qui berce la ville de son gai tic-tac. Le dieu Cupidon souffle sur ses ailes, et chaque printemps, quelques hirondelles volent tout autour dans un bruit d'amour. C'est un vieux moulin qui tourne sans fin.
Ah ça, j'avais le choix. Le moulin de la galette en chanson, c'est quelque chose. Il y a Lucène de Lisle, bien sûr. Ici, c'est Suzanne Robert en 1957. Et en 44, à la radio pétainiste, un certain Sacha Guitry nous livre quelques souvenirs.
Nous sortions de table un jour et nous étions dans son atelier quand il me dit « Figurez-vous qu'une américaine qui était venue l'autre jour ici pour m'acheter une toile m'a demandé de lui donner en plus un de mes pinceaux. Je me demande un peu l'intérêt que ça peut avoir. Vraiment, il y a des gens qui ont des idées idiotes. Vous ne trouvez pas ?» Non, je lui ai répondu, non, je ne trouve pas, et la preuve, c'est que je vais vous en demander un aussi. Vous voulez un de mes pinceaux? Oui, ça vous ennuie? Oh, pas du tout. Alors j'avançais la main vers une trentaine de pinceaux très usagés qui se trouvaient là, alors il me dit, oh ben non, prenez-en au moins un neuf qui puisse vous servir à quelque chose.
En 1914, au moment où éclate le premier conflit mondial, et au moment aussi où Monet perd son fils, il retourne vraiment à l'obsession de peindre, et il revient à ce projet de créer une grande décoration. Pendant l'année 1915, il va construire un grand atelier avec une grande hauteur sous plafond et une lumière zénitale qui va préfigurer ce que seront ces grandes décorations une fois installées. Il décide d'en donner deux à l'issue donc, du premier conflit mondial, le 11 novembre 1918, et il écrit donc le lendemain, le 12 novembre, à son ami Georges Clémenceau « Je veux vous donner ces deux panneaux que je signerai du jour de la victoire ».
Le projet s'officialise, le lieu est choisi, il est à côté du Louvre et aussi à proximité du Jardin des Tuileries. Double référence d'un jardin cher à Monet et du palais de l'empereur Napoléon III détruit par les flammes durant la Commune. Cécile Girardeau, conservatrice de l'Orangerie, nous retrace brièvement en mai 2016 l'histoire des magnifiques Nymphéa.
L'État s'engage à partir de cette époque à aménager les lieux pour recevoir ces décorations et fait appel à l'architecte Camille Lefebvre, qui va travailler en lien très étroit avec Claude Monet pour réaliser les plans de ces deux salles. D'une seule salle circulaire, on va passer à une salle elliptique, puis deux. Et ces deux salles elliptiques vont être conçues comme formant le signe mathématique de l'infini lorsqu'on les réunit ensemble. La disposition du lieu est également tout à fait particulière puisque les compositions vont décrire des heures différentes de la journée, du lever du soleil au coucher du soleil, et le bâtiment est également orienté est-ouest. Et donc on a vraiment tout un continuum de temps où c'est comme si le soleil se levait dans la deuxième salle des nymphas pour venir se coucher dans la première salle, et on voit vraiment toutes les heures du jour qui évoluent sur les compositions.
Ainsi va se terminer cette double visite aux impressionnistes, diffusion le samedi et lundi midi et le jeudi à 17h30, podcast à venir sur radioalpa.com et toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion. Mais ne nous quittons pas sans musique et sans une chanson originale signée Léo Desrivières, Les Ombrelles, que l'on devine bien inspirée par l'immense Monet. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa, et ne vous privez pas de faire le plein de couleurs pour illuminer votre regard.
Tenant sa promesse, Blanche Monet télégraphia à Clémenceau qui se trouvait en Vendée. Celui-ci ne perdit pas une seconde, sauta dans sa voiture, et pendant 500 km de Saint-Vincent-sur-Jard à Giverny, du fond de sa voiture, toute glace baissée, il ne cessa de crier à son chauffeur « Plus vite, plus vite, plus vite !» Ce merveilleux vieillard voulait arriver à temps pour embrasser celui qui s'en allait. Il arriva tout juste à temps, et Monet mourut dans les bras de Clémenceau. Pendant 2 jours, Clémenceau dormit dans la chambre voisine de celle où reposait son vieil ami. Silencieux, émouvant, il assista à la mise en bière. Mais quand l'homme des pompes funèbres voulut recouvrir le cercueil du voile noir traditionnel, alors Clémenceau le lui prit des mains en disant non.
Sur ta robe mouillée, des roses imprimées, arc-en-ciel. Pareil à des voiliers, à des âmes jumelles, sous le pont japonais de nymphes à sommeil. Pareil à des voiliers, à des âmes jumelles, sous le pont japonais de nymphes à sommeil. Il est des jours où l'on ose s'inonder de baisers, se couvrir de roses. Un amour que l'on pose au vélin d'un feuillet, en rime ou en prose. Pareil à des voiliers, à des âmes jumelles, sous le pont japonais de nymphes à sommeil. Pareil à des voiliers, à des âmes jumelles, sous le pont japonais de nymphes à sommeil. Sous le pont japonais de nymphes à sommeil. Sous le pont japonais de nymphes à s'éveille.
Puis, ayant regardé tout autour de lui, il alla à la fenêtre, arracha un des rideaux de toile fleurie, et lui-même il en couvrit le cercueil du grand peintre en disant à mi-voix : « Non, pas de noir pour Monet, le noir ce n'est pas une couleur. »